Pas comme tellement Mission Impossible pour ce dernier soir, parler de livres. Vous êtes venu avec un sac rempli, il faut dire, bon, il y avait des disques, il y avait des... Ouais. Il y a des livres, voilà.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce que c'est que d'autre que le livre? Le commencement et à la fin était le livre.
Ça, oui, c'est, j'ai bien peur de colporter cette image. Mais bon, quoi, oui, si on doit parler de livres, bah, j'aime bien avoir les livres avec moi parce que c'est quand même une des formes. Peut-être parce que c'est une forme qui est là depuis très longtemps. Parce que malgré tout, le CD, le 33 tours, le DVD, la cassette vidéo, la cassette audio, même le livre d'art, d'une certaine façon, sont des formes récentes et des formes qui sont... Tandis que le livre, c'est une forme qui est là depuis très très longtemps. Donc on a une espèce d'habitude d'avoir un rapport passionnel avec l'objet lui-même. On perd plus facilement un CD qu'un livre, hein. Y a pas de problème un CD, hein. Alors bon, bah, j'en ai pris un paquet avec moi, dont je peux dire quelques mots parce
Allez,
que.
Allez, un petit tour d'horizon.
C'est aussi des choses que j'aimerais revoir ressortir, voilà.
Ah, donc, avis aux éditeurs.
Voilà, je vais faire un espèce de petit avis aux éditeurs. En tout cas, il y a deux auteurs dont je me désole de pas voir plus de rééditions. Il y a un poète, c'est Christian Gabriel Guez-Ricord, dit aussi Christian Guez. Là, j'ai avec moi le recueil de dialogue qu'il avait fait avec celui qui a été à un moment son médecin traitant, Dufaux Butler. Et c'est vraiment un poète qui a réussi à partir d'une base, on va dire, proche de Nerval, proche du grand jeu, et à développer vraiment un parcours propre et qui est encore plus ancré dans la question de la lettre. La plupart des poètes dont il dépend ont été des poètes de l'image, et Christian Gabriel Guez-Ricord, par une interprétation très spécifique de Rimbaud, qui était vraiment l'idée de tout est vrai dans tous les sens, s'est mis à essayer de vivre, de voir les choses à la lettre. Donc de vivre et de voir les choses à la lettre. Et donc c'est aussi peut-être un des premiers poètes en français dont je dirais la traduction va être coton, pas parce que ça ne dépend que de la musique, mais parce que ça dépend véritablement de son rapport au langage, qui est un rapport d'une très grande intensité. Lui, il est très très peu réédité, très difficile à trouver, et c'est assez désolant. J'espère que un éditeur va dire non, quand même, Guez-Ricord too much, et il faut sortir. Et l'autre, plus récent, beaucoup plus récent, mort il y a quelques années, c'est un écrivain, donc il m'avait vraiment énormément plu, qui est Bertrand Delcourt. Alors je connais pas énormément de choses de lui. J'ai ce livre-là, Pourquoi nous sommes morts. Une amie qu'il a bien connue, Marie Moore, la chanteuse Marie Moore, m'avait prêté un manuscrit, enfin pas un manuscrit, c'était tapé à la machine,
mais un tapuscrit
de ses derniers textes, que je trouvais aussi absolument bouleversant, l'auteur de Pourquoi nous sommes morts, donc Bertrand Delcourt. Et je sais qu'elle avait, s'était mis en tête de chercher un éditeur, et je vois que, en tout cas pour l'instant, rien encore ne s'est passé, ni en termes de réédition de ce qu'a fait Bertrand Delcourt, ni en termes d'édition d'inédit. Le problème, c'est que c'est tout le problème. On est dans une époque qui est pleine d'auteurs vivants, et les morts sont moins insistants. Les morts viennent pas taper sur l'épaule des éditeurs vivants en disant, dis donc, Coco, tu te souviens de moi. Donc, il faut que les vivants parlent pour les morts. Donc, il faut qu'on rappelle de temps en temps ces noms-là. Voilà, il y a eux. Il y a un essayiste aussi qu'on réédite de temps en temps, qui m'intéresse beaucoup, qui est un écrivain un peu guénonien, qui s'appelle Pierre Gordon, qui a écrit sur, il a écrit sur les Vierges Noires, il a écrit sur les racines celtiques de Paris et tout ça, sur la lettre. Et c'est des textes extrêmement étranges. En tout cas, moi, je connais rien de pareil. Donc, c'est des choses aussi qui m'intéressent, que je trouve difficilement. Donc,
celui que vous avez voilà, là, il s'appelle comment, par
les
exemple?
Les Racines sacrées de Paris et les traditions de l'île de France.
D'accord.
Alors, moi, je croyais que j'avais lu tout ce qui pouvait y avoir plus extravagant sur ces questions-là. Enfin, j'exagère un peu, hein. Mais disons que j'ai lu des trucs extravagants. Là, c'est pas extravagant, mais c'est très, très étrange. C'est sur vraiment les dragons et les géants qui ont habité dans Paris. Donc, on est vraiment à ce niveau-là d'ancienneté. L'époque, ça parle vraiment de l'époque des géants et des dragons. Donc, on a une idée de, à travers les rues, à travers leurs noms, à travers de ce qui a été progressivement comment le souvenir d'une époque, on va dire antéhistorique, quoi, hein, aurait traversé, qui retrouve à travers des concordances de mythes et tout ça. C'est un travail qui à la fois, on peut dire, c'est qu'une hypothèse, mais c'était tout à fait passionnant. Ça m'a plu beaucoup. Alors sinon, Je vais essayer d'aller vite, hein, quand même. Hein. Il y a une, il y a quand même quelques rééditions très encourageantes. C'est celle de Roland Topor que font en ce moment Wombat et aussi évidemment les Cahiers dessinés. Mais là, Wombat sort Joko fête son anniversaire, sort le théâtre de Roland Topor. Ça, c'est un écrivain quand même, pas seulement un dessinateur, enfin tout. Hein, il est à peu près tout de très haut niveau. Et il y a Delphine de Ton, vivant, un réédité vivant ou un édité vivant. Et là, c'est ma véritable histoire d'Arakiri Hebdo. C'est vraiment absolument fabuleux. C'est le feuilleton qu'il avait fait dans Ciné Hebdo il y a quelques années, qui re-racontait en fait, mais qui faisait vraiment prenait le parti d'une relecture des numéros pour essayer de voir en fait exactement ce qui se jouait au moment de la création d'Arakiri Hebdo. Et c'est par Delphine de Ton, c'est-à-dire par c'est pas un témoin, c'est un complice. Donc c'est un membre de l'équipe. Donc c'est vraiment c'est inestimable. Delphine de Ton, il y a des milliards de pages inédites comme Cavana. Donc Cavana et Delphine de Ton, il y aurait dans ces numéros d'Arakiri, de Charlie, de tout ce qu'on veut, du Nouvel Obs pour Delphine, de l'autre journal, de je sais pas quoi. Il y a aussi du travail pour. Il faudrait trois vies de trois éditeurs différentes entières pour commencer à éditer tout ça. Et ce serait. Et en tout cas, moi, je dirais tout. Hein. Et bon, alors pour parler des jeunes. Je lis aussi avec grand goût. Je suis très intéressé par ce qui se fait dans le domaine de l'essai. C'est ce que je fais, l'exégèse, et c'est ce que j'aime lire aussi. Hein. Je suis pas un gros lecteur de romans. J'en lis très peu. Dans le passé déjà. C'est-à-dire que je lis plus facilement des ouvrages, des traités d'islam ésotérique que un roman de Balzac. Donc moi j'aime énormément le livre qu'a sorti Sarah Chiche récemment sur Haneke, Éthique du Mikado. Ça m'a semblé très très intéressant comme approche. C'est des approches qui sont pas des approches de critique de cinéma ni de philosophe. Elle est à côté de ça, elle est psychanalyste, mais c'est pas du tout un texte de psychanalyste. Elle est vraiment en train d'essayer de trouver une autre manière d'arranger une pensée de fragments ensemble. Donc elle travaille vraiment sur les fragments et sur les organisations de fragments. Et ça, bon, c'est un style en soi et qu'elle maîtrise particulièrement bien et dont elle fait quelque chose de particulièrement beau et particulièrement engageant. Je pense aussi que parce qu'elle choisit des sujets, que ce soit Pessoa ou Haneke, je la verrais bien écrire sur Henry James, des sujets où il y a des trous, justement. Des auteurs où il manque des choses. J'ai essayé de l'encourager à voir The Leftovers, on verra si elle le fait. C'est une série pour elle, en tout cas. Et parlant de séries, c'est Sarah Atuel qui a sorti Rêve et séries américaines, La Fabrique d'autres mondes. Et alors là, c'est vraiment de l'exégèse de séries télévisées. Bon, on peut dire, on fait la même chose, Sarah et moi. Elle le fait très différemment. C'est vraiment une lecture de, que ce soit Buffy, que ce soit Twin Peaks, que ce soit Lost, que ce soit Battlestar Galactica, que ce soit Hannibal, que ce soit toutes ces séries-là. On sent que c'est un vivier d'interrogations sur, comment dire, que c'est des œuvres qui regardent en arrière, un peu comme l'ange de Benjamin avec qui voit enfin l'ange de Paul Klee par Benjamin et qui voit le désastre quoi qui voit le désastre qu'il y a derrière eux et donc il retourne et qui voit ça qui est dans ses champs de ruines et qui se pose la question mais en même temps il y a un truc qui vous tire vers le haut aussi dans ces séries là et il faut arriver à trouver la juste exégèse, c'est-à-dire une exégèse qui ne soit pas seulement là pour montrer pourquoi ça va mal, genre on le sait, mais aussi qu'est-ce que notre époque nous révèle de nous-mêmes de grandiose que les autres époques n'avaient pas fait. Parce qu'on voit bien en quoi notre époque elle est pire que les autres, ça je crois qu'on voit très bien. Mais par contre, on voit pas aussi en quoi elle nous révèle à nous-mêmes quelque chose de mieux. Et le fait justement d'être une époque dont le moindre personne dans les sociétés est toujours moins pire que la personne qu'il dirige. Gros. un univers avec une hiérarchie inversée parfaite. Plus une personne est haut placée, plus on sait qu'elle ne sait rien du monde qui l'entoure. On pourrait même dire que cette hiérarchie, elle s'étale à un niveau métaphysique. C'est-à-dire qu'une fourmi sera plus en mesure de savoir ce que c'est que l'expérience de la vie qu'un ange. Et donc ce serait ça. Et cette époque-là, une époque comme celle-là, a un caractère absolument grandiose, a un caractère absolument nouveau et partant absolument grandiose. Le petit n'a jamais été aussi chargé d'intensité et de lumière. Et les séries télévisées sont une forme artistique qui, je ne sais pas si elle s'adresse à ça ou si elle répond de ça. Peut-être qu'elle répond de ça. En tout cas, on est en face d'œuvres qui ne cesse de nous parler de ça et qui ne cesse aussi de faire une chose. Je crois que c'est la première fois qu'on le fait depuis Nag Hammadi, depuis les gnostiques, c'est de parler d'un monde dans lequel l'eschatologie est réalisée, c'est-à-dire le monde d'après la fin. Quand ils ont dit la fin au désespoir, la fin, je sais pas quoi, la fin de la politique, la fin de l'histoire, la fin de machin, toutes ces fins-là, en fait, si on les accumule, si on en fait un espèce de stock, c'est comme si toutes les apocalypses avaient été épuisées. Qu'est-ce qui pourrait bien encore nous sortir? Parce que si on nous sort un grand dragon rouge et une femme, je sais pas quoi, et la femme dans le ciel avec enrobée d'étoiles, on va pas être surpris. On l'aura déjà vu à la télé. Vous voyez? Ils peuvent pas nous faire d'apocalypse grandiose. Donc on a déjà épuisé ces trucs-là. Donc qu'est-ce que c'est que de vivre dans un univers où l'eschatologie a été réalisée? C'était la question des gnostiques, c'est la question que posent, je crois, non seulement les séries télévisées, mais aussi finalement les essayistes d'aujourd'hui ou les exégètes d'aujourd'hui.